Et je vous invite à entendre dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les derniers versets de ce chapitre.
Une pauvre veuve offre tout ce qu'elle a. Jésus s'assit dans le temple, en face de la salle du trône, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. Nombreux, riches, donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 pièces dans le monnaie. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je vous le déclare, c'est la vérité, cette pauvre a mis plus que tous les autres. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Les actes héroïques nous mettent un peu au défi. Quand on est devant quelque chose d'héroïque, comme peut l'être l'attitude de cette femme dans ce texte, on peut hésiter entre deux attitudes, l'admiration ou l'abandon. On se dit, pour les plus courageux peut-être, pourquoi pas moi ? Et pour les autres, moins courageux, plus lucides peut-être, ce n'est pas pour moi. Et ici, l'attitude de cette pauvre veuve inspire bien un peu d'admiration au moins à tout le monde, tant le sacrifice consenti est important. Ce n'est pas de son superflu qu'elle laisse, c'est tout ce qu'elle a pour vivre. La grandeur du geste est inversement proportionnelle au statut de cette femme, parce que personne ne la remarque, sauf Jésus, ses disciples un peu à distance. Peut-être qu'il fallait justement un peu de distance pour la voir, pour voir ses gestes à elle émerger au milieu de ce que les autres faisaient. C'est souvent comme ça dans l'Évangile, les personnes qu'on nous donne à admirer, qu'on nous donne en modèle, sont souvent des laissés pour compte, comme cette femme. On dirait que malgré les difficultés bien réelles de nos vies, Jésus cherche à nous reprocher d'être oublieux de la petitesse qui sauve, comme si nous étions tous coupables de démesure, ce qui évidemment n'est pas forcément le cas. On sent venir peut-être une pointe de culpabilité, parce que si l'héroïsme nous sert de jauge, nous ne nous en sortons pas bien quand nous n'arrivons pas au niveau du personnage héroïque, quel qu'il soit. Nous nous sentons mesurés. Pendant des générations, les chrétiens ont retenu que pour faire son salut, il fallait être pauvre. Ce modèle a bien fonctionné dans l'histoire. Il faut être pauvre. Reconnaître sa pauvreté, être médiocre et s'en satisfaire. La morale commune cherchait plutôt à promouvoir le renoncement. Il y a eu de longues époques qui ont fonctionné avec ce principe moral. C'est ainsi qu'on a compris les choses pendant de nombreux siècles, jusqu'à ce que la réforme remette en question le bien fondé de cette situation et rappelle que le salut ne s'acquiert pas avec de l'argent et pas avec un manque d'argent non plus, ni en exhibant sa richesse, ni en se faisant volontairement pauvre, ou en faisant valoir sa pauvreté financière pour une richesse morale. Si Jésus montre cette femme en exemple, ce n'est pas pour montrer que le dénuement apporte une quelconque forme de salut ou de rédemption ou de perfection, mais pour dire que c'est le don et la manière dont nous donnons qui est une des choses les plus sérieuses qui soit, peut-être la plus sérieuse de toutes. Le superflu, on s'en débarrasse sans se retourner, puisque c'est du superflu. L'essentiel, par contre, on le partage en sachant exactement ce qu'il nous coûte, c'est-à-dire en sachant exactement ce qu'il vaut. Selon qu'on se place dans l'un ou dans l'autre cas, le geste du don n'a ni le même sens, ni la même valeur. Pourtant, ici, en lisant ce texte, nous ne pouvons qu'éprouver un certain malaise. Peut-être parce que nous n'aurions pas été, dans un premier temps, capables de faire la même chose, de laisser avec autant de désinvolture ce qui nous est nécessaire pour vivre, mais aussi peut-être parce que cette petite scène anodine nous amène à nous questionner sur la personne même de Jésus qui n'agit pas ici, qui commente après coup et qui n'intervient pas. La personne de Jésus lui-même, sa manière d'être présent au monde, ici comme simple témoin, comme commentateur, après coup. Il y a ici un certain nombre d'incohérences dont il va bien falloir rendre compte pour essayer de comprendre la portée de ces quelques lignes. Pour peu que notre esprit critique soit un peu en éveil, nous serons sans doute surpris, peut-être choqués, en constatant que Jésus félicite une femme pour avoir fait un geste qui ne va servir à rien. Il fait devant ses intimes l'éloge de cette pauvre femme qui se sacrifie en donnant tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, pour l'entretien d'un temple dont il annonce la destruction imminente juste après. Et ce n'est pas tout. Jésus semble être blasé par le spectacle de la collecte de l'argent. Jésus regardait comment les foules mettaient de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup, etc. Vous savez, ce récit à l'imparfait comme ça, où tout est ordinaire, où rien ne ressort, pas un passé composé, rien du tout, qui fasse ressortir un fait majeur, un fait saillant, de l'imparfait. Pas de critique, pas de louange non plus, il regarde simplement. Aucun jugement de valeur sur ceux qui donnent beaucoup. Il attire pourtant l'attention de ses amis, de ses disciples, sur la pauvre veuve. Le texte insiste sur l'insignifiance de la somme qu'elle met dans le tronc, 2 pièces faisant 1/4 sou, vraiment pas grand-chose. Autant dire rien du tout, mais pourtant cette somme très faible a une grande valeur pour elle et aussi après coup pour Jésus et ses disciples qui regardent. Jésus ne fait aucun commentaire pour dire si Dieu y trouve son compte, si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça suffisait. Il ne fait pas de compte. Et on ne sait pas non plus si Dieu se réjouit d'un geste qui ne sert à rien. Cependant, un tel geste représente pour cette veuve tout son potentiel de vie, tout ce qui lui était nécessaire à la vie, contenu dans ces quelques pièces, et qu'elle lâche comme ça, en ouvrant sa main. Jésus ne commente pas ce geste dans le sens où nous l'espérons. En donnant cet exemple, Marc suggère que notre rapport aux choses de l'esprit, est vital, aussi important que la vie que nous menons ou que l'air que nous respirons. Et c'est pour ça que nous ne sentons pas forcément à la hauteur. Qui serait capable de cela ? Le geste de cette veuve est cité en exemple sans qu'aucun autre commentaire ne soit fait, ni sur l'argent, ni sur les riches. Personne n'est encensé, personne n'est condamné, tout le monde s'en sort finalement. Elle ne sait même pas qu'elle a retenu l'attention, cette pauvre femme, de Jésus qui est à distance comme ça, et pendant quelques secondes tout au plus. L'Évangile insiste seulement sur la valeur du sacrifice volontaire qui établit une relation de vie entre Dieu et cette femme. C'est tout ce qu'on nous dit de ce qui se passe à ce moment-là. L'étrange prophétie de Jésus qui annonce dans les lignes qui suivent la disparition du temple semble rendre cet acte complètement inutile. Mettrait-on de l'argent dans quelque chose qui va bientôt s'effondrer et dont nous connaissons par avance l'effondrement ou la date de l'effondrement. Le temple sur lequel elle donne son essentiel sera démoli. Il ne restera plus pierre sur pierre. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est arrivé, effectivement. Comment concilier l'approbation du don de la veuve et l'annonce sans émotion, sans regret, de la destruction du temple? Le geste de la veuve va dans le sens de la vie telle que Dieu la souhaite et telle que Jésus l'annonce aussi, même si l'histoire montrera que le temple ne joue plus aucun rôle par la suite. Pour l'instant et pour la relation de cette femme avec son Dieu, il joue un rôle considérable. En contribuant de tout son être à l'entretien du sanctuaire terrestre, elle participe, elle, parce que c'est comme ça qu'il faut faire à ce moment-là, à la volonté créatrice de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus valorise son action. Elle ne sait pas ce qui va suivre. Elle est dans le présent, dans l'instant, et c'est ce qui condense toute la force de son geste. Ce geste, justement, n'empêche pas pour autant Jésus de considérer avec lucidité la situation politique de son époque. Jésus sait, comme tout un chacun, que si les tensions continuent à croître entre Juifs et Romains, une guerre finira tôt ou tard par éclater et le sanctuaire, la ville peut-être, en subira les conséquences. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. La prophétie de Jésus relève de la lucidité plutôt que de la divination. C'est plus tard qu'une théologie de cette destruction est venue. La théologie de la destruction du temple est élaborée après coup par ses disciples, par ses apôtres qui chercheront à rendre compte théologiquement de ces événements, comme l'ont souvent fait tous les auteurs bibliques. La destruction du temple qui va suivre est de l'ordre du possible et même du probable. Elle est liée à la violence des hommes, une violence hélas prévisible. La disparition de ce temple n'était pas, par Jésus, dans les lignes qui suivent les nôtres, une promesse morbide faite de toute éternité par un Dieu vengeur. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Elle n'était que le fruit malheureux d'une histoire humaine aussi violente qu'implacable. Il suffisait de lire. Jésus ne s'est jamais très clairement exprimé, d'ailleurs, sur la destruction du temple. Ce sont ses adversaires qui en ont dit beaucoup plus que lui au moment du procès et qui ont joué sur les mots. Il aurait parlé de la destruction du temple, il veut le reconstruire en 3 jours, etc. etc. Et Jean précise qu'il parlait, lui, du temple de son corps pour mieux faire comprendre qu'il n'avait rien compris. Les disciples n'ont retenu que des paroles ambiguës de leur côté à propos du temple que Jésus a purifié avant sa mort et auquel il s'est lui-même identifié. Le nouveau temple, c'est moi. Ni l'évangile de Matthieu ni l'évangile de Jean n'ont retenu la prophétie. Seuls Marc et Luc la présentent, en tout cas sous cet angle. C'est pourquoi, en prophétisant la destruction du temple, Jésus n'a pas fait état d'une décision préalable par Dieu qui conduirait l'histoire indépendamment des hommes. Il a seulement évoqué les conséquences inévitables que les erreurs humaines pouvaient avoir sur la religion, sur la société de leur temps. C'est malheureux, mais nous pouvons très bien rendre vains ou caduques des gestes qui sont pourtant porteurs d'avenir, les seuls, même modestes, porteurs d'espérance, les étouffer sous nos violences. Nous pouvons rendre ces gestes complètement inutiles alors qu'ils sont porteurs d'avenir au moment où ils sont faits, pile au moment où ils sont faits. Nous avons ce redoutable pouvoir. Dans ce texte, la véritable opposition ne se situe pas entre la pauvre veuve et les riches, comme si c'était une différence de revenus. Entre ceux qui laissent tomber dans le tronc une petite pièce et ceux qui en jettent de pleine poignée. Ce n'est pas le sujet. La véritable alternative se trouve entre la chute inévitable de ce qui semble sécurisé, lourd, solide et qui doit passer les siècles, les religions, les civilisations, les institutions, les murs qui les portent, et ce qui paraît léger, éphémère, un petit geste de rien du tout, que seul Jésus a remarqué et encore de loin. Les choses solides qui nous abritent ont pris du temps pour être construites, mais elles ne dureront qu'un temps. Nos constructions en dur nous rassurent par leur solidité apparente, par leur fixité, mais c'est pourtant en elles qu'apparaissent les fissures et les trous. Demandez au trésorier régional et au service immobilier régional ce que coûte la réfection et l'entretien de nos locaux. Ils vous répondront, chiffre à l'appui, que sur 70 associations cultuelles en région parisienne, dans notre église protestante unie de France, 37 parmi elles, dont plus de la moitié, engloutissent des sommes considérables pour éviter la chute de leur toit ou de leur mur, jusqu'au moment où on se demande si ça vaut encore la peine de dépenser même un quart de sou. Nous pourrions faire le même constat avec les affirmations dogmatiques qui ont fixé nos certitudes pour longtemps, sinon pour l'éternité. Elles ont rassuré les esprits inquiets pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles finissent par ne plus rien dire du tout, comme si nous les avions usées à force de les répéter. Nous pourrions dire la même chose à propos des institutions, des systèmes de pensée, des coutumes, des traditions. Elles cristallisent, solidifient, et enferment les choses précieuses pour mieux les véhiculer. C'est la vocation qu'elles se donnent, et elles ont raison de le faire. Elles veulent emmener ces choses précieuses le plus loin possible, et pourtant ce sont elles qui finissent par nous encombrer. Les murs tiennent longtemps. jusqu'à ce que des brèches apparaissent. Et ce sont précisément entre ces brèches, ces trous, ces failles, qu'on voit apparaître des petits gestes simples et essentiels, comme s'ils s'enfuyaient par là, comme s'ils avaient trouvé un échappatoire. Au bout du compte, ce sont eux qui se transmettent longtemps et qu'on reprend siècle après siècle. Eux, bizarrement, ne disparaissent jamais. Ce sont eux qui font les traditions, les vraies traditions, parce qu'ils sont souples et légers. Seuls ceux qui voyagent légers ont une chance d'aller loin. Ceux qui peuvent survivre avec un petit sac à dos savent ces choses-là. On ne prend que ce qui est essentiel, on ne se charge pas. Toutes nos constructions ne font que trahir notre besoin de fabriquer de l'éternité avec du périssable. Ça ne marche pas. Que ce soit avec des pierres qui enferment ou avec des mots qui recouvrent tout de leur bruit, ça ne marche pas, ou pas longtemps, en tout cas pas éternellement. À des années-lumière de cette lourdeur pourtant fragile, se trouvent les gestes de générosité, comme celle de cette pauvre femme, effectués en temps voulu. Ce sont eux qui voyagent le plus loin. Amen.